Bonjour, c'est Jean-Marie Marcoux sur Radio Axe. Pour cette 42e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi la méthode Coué est devenue d'avant-garde pour être heureux? Vous avez certainement entendu parler de la méthode Coué. Peut-être même avez-vous utilisé l'expression « pratiquer la méthode Coué ». Et comme de nombreuses personnes, journalistes et politiques confondus, vous avez probablement utilisé cette expression pour dénigrer les propos d'une personne dont vous pensiez qu'elle niait la réalité. Pratiquer la politique de l'autruche et se bercer d'illusions en se focalisant sur une solution fantaisiste, ultime et désespérée pour résoudre ses problèmes. Ou bien, pour vous moquer de quelqu'un dans le déni de ses propres limites, croyant dur comme fer à la volonté comme seul carburant de la vie, et répétant à l'envi que « quand on veut, on peut ». Ou encore, vous avez souri au personnage incarné par Danny Boone dans son sketch du dépressif qui annonce « je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît ». Et comme beaucoup, vous vous êtes leurré, démontrant par là même la méconnaissance générale de la véritable méthode Coué, répétant les mêmes clichés volontaristes caricaturant les approches positivistes. Mais savez-vous qui était ce monsieur Coué et quelle est exactement sa méthode? C'est l'objet de cette chronique. Découvrir le personnage et sa méthode, mesurer la vision de son créateur et en comprendre la modernité. Émile Coué de la Châtaigneraie, de son vrai nom, est né en 1857 à Troyes, où il a exercé son métier de pharmacien avant et pendant la Première Guerre mondiale. Il a vécu ensuite à Nancy, où il a suivi les travaux de l'école de psychologie, s'intéressant de près à l'hypnose, à l'inconscient et la suggestion. Il y poursuit ses propres recherches et anime la Société Lorraine de psychologie. Premier pas vers la création des instituts Coué. À Nancy, Émile Coué anime ses premières conférences et en 1913 rédige son unique ouvrage, une brochure d'une cinquantaine de pages intitulée « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». Ce petit livre, très vite traduit dans de nombreuses langues et diffusé dans le monde entier, est depuis plus d'un siècle réédité régulièrement. Car M. Coué a su développer son influence par-delà les frontières, pratiquant déjà une forme de marketing redoutablement efficace et un sens du réseau d'une grande modernité, donnant ses conférences dans le monde entier et nouant des relations étroites avec des figures importantes de son temps. L'industriel Henry Ford, le président américain Harding, le grand-duc de Russie ou encore le duc d'York, futur George VI, celui-là même qui fit appel à Coué pour traiter son bégaiement et lui permettre de prononcer le discours d'un roi. À son époque, aux États-Unis, Émile Coué était surnommé le petit marchand de bonheur. Et aujourd'hui encore, il est encensé en Amérique, où il fait figure de précurseur, inspirant par la suite les méthodes de psychologie positive, de PNL, programmation neurolinguistique, d'analyse transactionnelle, de gestalt-thérapie, de communication non violente, de sophrologie, de visualisation créatrice, pour ne citer que les plus connus. Martin Seligman, le spécialiste mondial de la psychologie positive et que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de sa première venue en France en février 2019, faisait part de sa grande surprise à mon ami Luc Tessier-Dorfeuille, expert français de la méthode Coué. Seligman ne comprenait pas pourquoi Émile Coué et sa méthode étaient toujours admirés aux États-Unis et pourtant constamment tourné en dérision en France. Luc Tessier-Dorfeuille pense que cette méthode, révolutionnaire au début du XXe siècle, fondée sur le pouvoir de l'inconscient et mettant l'accent sur la force de l'imagination, s'est heurtée au poids des institutions, à la résistance de l'Église catholique et d'un corps médical très conservateur. La méthode Coué était trop simple pour l'esprit français, développant une nette préférence pour les théories plus sophistiquées. Une fois de plus, nul n'est prophète en son pays. Émile Coué est considéré comme le premier coach moderne, le premier à formaliser une méthode de coaching, incarnant physiquement sa méthode, souriant, bienveillant, rassurant et sympathique dès le premier contact. Il invente, au début du XXe siècle, ce qui sera appelé bien plus tard les thérapies brèves, orientées solutions. À la fois coach et thérapeute, Émile Coué recevait des personnes individuellement ou en groupe, afin de traiter leurs souffrances physiques et psychologiques. Défricheur et visionnaire, au sortir de la Première Guerre mondiale, il est le premier à avoir soigné les douleurs psychologiques des soldats souffrant de symptômes traumatiques. Les travaux d'Émile Coué ont largement influencé les spécialistes américains traitant les troubles de stress post-traumatique causés par la guerre du Vietnam. Dans son officine, Émile Coué a très vite compris la puissance de l'inconscient, qu'il appelait l'imagination, face à la maladie. Aussi fut-il l'un des premiers à expérimenter l'effet placebo. Il confectionnait pour ses clients des pilules à base de mie de pain, ne contenant donc aucun principe actif, et les vendait en les accompagnant de phrases positives qu'il répétait aux clients de sa pharmacie. Des phrases telles que « Prenez ce médicament, cela va vous faire du bien et ce n'est qu'un début. » Ces simples mots, favorisant la guérison, un résultat obtenu grâce au placebo, accompagné de la parole positive du thérapeute, l'effet placebo. Cependant, il ne s'est jamais opposé à la médecine. Il n'a jamais présenté sa méthode comme une médecine alternative. Émile Coué est resté un thérapeute exerçant dans un rôle complémentaire à celui du médecin. D'ailleurs, très tôt dans son livre, Émile Coué écrit « La pratique de l'autosuggestion ne remplace pas un traitement médical, mais c'est une aide précieuse pour le malade comme pour le médecin. » Sa méthode, en tant que ressource thérapeutique, a vu son efficacité validée par les découvertes les plus récentes des neurosciences. Émile Coué a observé très tôt la force de notre imagination et son impact sur notre santé, démontrant que nos croyances et nos pensées créent la réalité que nous vivons. Il proposait notamment d'utiliser la visualisation. Visualiser une plaie qui se referme. Visualiser le médicament qui rentre dans le corps et fait du bien. Visualiser sa digestion. Lors de ses conférences, il rappelait que deux personnes placées exactement dans les mêmes conditions peuvent se trouver l'une parfaitement heureuse et l'autre absolument malheureuse. Face à la question du verre à moitié plein ou à moitié vide, il répondait « Les deux sont vrais. Décider de voir le verre à moitié plein, décider d'être heureux. » Si vous avez écouté ma toute première chronique du bonheur, vous vous souvenez de la description d'un moment crucial de ma vie, le jour où j'ai décidé d'être heureux. Vous comprenez parfaitement pourquoi les mots de cet homme me touchent. Pourquoi sa méthode de bonheur est d'une grande modernité. Voyons maintenant en quoi consiste la méthode Coué. Composée d'un fondement, de deux postulats, de quatre lois et d'une formule à répéter régulièrement. Le fondement ? Nous possédons en nous une force d'une puissance incalculable, qui, lorsque nous la manions de façon inconsciente, nous est souvent préjudiciable. Si, au contraire, nous la dirigeons d'une façon consciente et sage, elle nous donne la maîtrise de nous-mêmes et nous permet non seulement d'aider à nous soustraire nous-mêmes et à soustraire les autres à la maladie physique et à la maladie morale, mais encore de vivre relativement heureux, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous puissions nous trouver. Les deux postulats maintenant. Premier postulat, toute pensée que nous avons en tête devient réalité, dans la limite du raisonnable. Toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Deuxième postulat, contrairement à ce que l'on enseigne, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais notre imagination, notre être inconscient. S'il nous arrive souvent de faire ce que nous voulons, c'est que nous pensons en même temps que nous pouvons. Les quatre lois de Kui maintenant. Première loi, la première faculté de l'homme est l'imagination. Deuxième loi, quand il y a lutte entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans exception. Troisième loi, lorsque la volonté et l'imagination sont en accord, elles font plus que s'ajouter, elles se multiplient. Et enfin, quatrième loi, l'imagination peut être conduite. La méthode Kui est donc le contraire du vieil adage gaulois « quand on veut, on peut ». Émile Kui a démontré que plus on veut et moins on peut en réalité. Que tous les efforts volontaristes de trouver le sommeil, de retrouver un nom qui nous a échappé, de retrouver son calme après un fou rire, de lutter contre le bégaiement sont tous contre-productifs. Et que plus vous essayez de trouver le sommeil, et plus vous renforcez votre insomnie. Plus vous essayez de contenir votre fou rire, et plus c'est compliqué. Quant à la formule, elle est basée sur l'auto-suggestion, c'est-à-dire l'implantation d'une idée en soi-même, par soi-même. Cette formule est « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tel un mantra. À la manière d'une litanie, Émile Kui conseillait de se répéter à voix haute cette autosuggestion universelle 20 fois de suite et au moins 2 fois par jour. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. La méthode Kui, c'est bien une méthode simple, gratuite, moderne, accessible à tous, parfaitement au goût du jour, une méthode d'avant-garde, tant les découvertes actuelles des neurosciences le prouvent. Pour illustrer cette méthode, ancienne et révolutionnaire, nous allons découvrir comment un chien imagine qu'un stratagème va marcher et comment cela marche. Le conte de la semaine nous vient d'Afrique et s'intitule « Le chien, le singe et le léopard ». Une vieille dame décide d'aller faire un safari photo en Afrique. Elle emmène son fidèle vieux chien pour lui tenir compagnie. Un jour, le chien part à la chasse aux papillons et s'aperçoit qu'il est perdu. Errant au hasard, en tentant de retrouver son chemin, il voit un léopard courir vers lui avec l'intention visible de faire un bon repas. Le vieux chien pense « Oh, la situation se complique là !» Remarquant les quelques os d'une carcasse qui traîne sur le sol à proximité, il se met aussitôt à mâcher les os, tournant le dos au léopard qui approche. Quand celui-ci est sur le point de lui sauter dessus, le chien s'exclame haut et fort « Ouais, ce léopard était vraiment excellent! Je me demande s'il y en a d'autres par ici !» En entendant cela, le jeune léopard interrompt son attaque en plein élan, regarde le chien avec effroi et s'enfuit en rampant sous les fourrés. « Ouf !» soupire le léopard. « C'était tout juste. Ce vieux chien a failli m'avoir. » Cependant, un singe qui avait observé toute la scène d'une branche d'arbre à proximité se dit qu'il pourrait mettre à profit ce qu'il sait en négociant avec le léopard et obtenir ainsi sa protection. Il part donc le rattraper, mais le vieux chien, le voyant courir à toute vitesse après le léopard, réalise que quelque chose doit se tramer. Le singe rattrape le léopard, lui dévoile le poteau rose et lui propose un marché. Le jeune léopard est furieux d'avoir été trompé. « Viens ici, le singe, monte sur mon dos et tu vas voir ce qui va arriver à ce petit malin. » Le vieux chien voit le léopard accourir avec le singe sur son dos et réfléchit. Mais au lieu de s'enfuir, le chien s'assied dos à ses agresseurs, fait semblant, une fois de plus, de ne pas les avoir vus. Et juste au moment où ils arrivent à portée de voix, il s'exclame. « Mais où est donc ce foutu singe ? Ça fait une heure que je l'ai envoyé me chercher un autre léopard !» Pour l'action de la semaine, dans un premier temps, souvenez-vous dans votre vie d'une situation dont vous aviez imaginé qu'elle pouvait mal se passer et dont le résultat a été effectivement négatif. Comme si vous aviez su à l'avance ce qui allait arriver, telle une chronique d'une catastrophe annoncée. Repassez en mémoire ce qui s'est passé, étape par étape. Observez comment vous avez mis en place tous les moyens d'avoir raison et donc d'échouer, consciemment ou inconsciemment. Dans un deuxième temps, souvenez-vous dans votre vie d'une situation que vous aviez imaginé réussir et dont le résultat a été positif. Comme si vous aviez prévu à l'avance ce qui allait arriver, fort d'une certitude que tout se passerait bien. De nouveau, rappelez-vous ce qui s'est passé étape par étape. Observez comment vous avez mis en place les comportements qui vous ont donné raison, provoquant toutes les chances de réussir, consciemment ou inconsciemment. Pour la musique du bonheur de la semaine, nous nous sentons bien ensemble avec Jack Johnson et son titre « Better Together ». C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go, and knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things for tomorrow night. You see,
that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep. Hey, now and when I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.